de la tradition biblique, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes situés, le monde qui est le nôtre, c'est Dieu qui l'a créé. Je ne reviens pas sur les détails de la Bible. Dans une conception du monde qui ne fait pas appel à Dieu comme créateur, la présence du mal dans le monde est sujet de beaucoup d'études, d'inquiétudes, mais aussi ne fait pas scandale. Le problème de l'origine du mal dans le monde dans notre monde apparaît sous forme de scandale en relation et en fonction de relation avec le postulat primordial de la vie que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est un peu le point de départ de ce qu'on a dit la dernière fois, de la semaine dernière. Je n'aurais évidemment pas le temps de revenir sur les détails de cette analyse. Et donc nous allons, comme chaque soir, faire l'effort de revenir dans la mémoire immédiate autant que ce peut. L'essentiel de ce que nous avons vu est l'effort précédent. Pourquoi en est-il ainsi? Et vous aurez raison quand même de me référer de nouveau à toutes les notions qui seraient indispensables pour les analyses de ce soir. Par contre, le sujet de ce soir est un sujet, disons d'abord, beaucoup plus facile. Étant donné l'état du monde, étant donné l'état de chaos que nous avons obtenu, avec deux sources principales, la nécessité d'un vide tout en l'être, pour que le monde y soit logé, et je vais revenir sur cette notion du halal, du vide de l'être pour que le monde soit logé, c'est une des premières racines de ce que nous avons de mal dans notre monde, dans le monde d'en bas, dans le monde où nous sommes situés. Et d'autre part, pour que les kabbalistes appellent la Shina d'Akedim, la boule des vêtements des sphères, et aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir, le monde nous est donné. Au moment où l'homme entre dans l'histoire du monde, entre dans le récit des vies, à l'état de chaos. Cet état de chaos primordial, qui est l'état originel de l'histoire de notre monde, le sujet de ce soir, c'est celui de la restauration du projet du Créateur pour ce monde tel qu'il est devenu pauvre. En termes du discours kabbaliste, du vocabulaire de la Kabbalah, il y a d'abord, dans la volonté du Créateur, ce que nous appelons en hébreu « Marchevet Avodah », le projet pour un monde créé, pour l'autre que Dieu. Et ce projet, en tant que projet, nous pourrions le définir, bien que le terme que j'avais employé ne fait pas partie du vocabulaire hébreu, comme un monde parfait. Donc, pour faire allusion beaucoup plus précisément au terme hébreu de Shemus, comme un monde en plénitude. C'est Marchevet Avodah, le projet du Créateur pour sa création. Et puis, nous avons vu que ce projet du Créateur pour sa création est diminué dans la réalité, dégradé dans la réalité de ce monde-ci, afin de donner l'occasion de la restauration des mondes, c'est le sujet de ce soir, à travers laquelle la créature acquiert le mérite d'être. C'est très brièvement résumé l'état des analyses d'apport. Bien entendu, mille questions, des détails, des éditions des détails, ou d'objections d'analyse elle-même à ces postulats, inévitablement apparaissent dès que nous prenons connaissance de ce grand problème. C'est pourquoi j'ai réservé pour la fin du séminaire, la prochaine fois, une soirée de récapitulation et de mise au point de ce problème. En particulier, je signale la difficulté de l'analyse de la semaine dernière. N'y aurait-il pas, c'est des questions que l'on m'a posées après le coup, n'y aurait-il pas une sorte de fatalité, de nécessité qui contraindrait, entre guillemets, le Créateur à devoir nous situer d'abord dans ce monde-ci, dans l'état où il se trouve depuis le chaos originel, c'est-à-dire avec le problème du mal, une nécessité de passer par là, de telle sorte que la créature soit libre. Nous retrouvons ces questions la prochaine fois. Je vous les signale en passant. Vous arrivez? Continuez à m'entendre?
Très bien.
Et comme je le disais, le sujet que nous allons aborder est plus proche de nous, parce que c'est celui de l'espérance de la restauration du monde, c'est celui de l'espérance d'une coïncidence entre l'être de créature qui est de l'autre et le projet du Créateur pour nous, l'histoire de ce qui s'était passé depuis l'origine jusqu'à nous, les êtres de ce monde-ci, étant l'histoire d'une dégradation très compliquée, très complexe, nous avons essayé de systématiser, de schématiser, dans ses dimensions principales, le halal, le oui, comme origine du mal, la chira d'infinie, la brise des valeurs, de l'unité des valeurs comme origine du mal. Et nous retrouvons les deux niveaux que nous allons suivre ce soir dans l'analyse de cette restauration, de l'idée de restauration, à l'échelle globale, à l'échelle universelle, du cosmos tout entier comme l'être de création, l'histoire du monde, et c'est la notion de tikkun, restauration des mondes, et à l'échelle de la destinée individuelle de chacun, de chaque personne dans l'histoire globale du monde, ce sera le problème des bilunim que je vous traduirai tout à l'heure, mais qui signifie l'objectif de restauration de l'intégrité des personnes à l'échelle individuelle. Première idée apparaît là, c'est que nous sommes confrontés à deux visions du monde possibles qu'il faut essayer d'appréhender en même temps. L'histoire du monde, en général, à l'échelle universelle, qui se déroulerait à travers le temps de l'histoire du monde de manière linéaire. De manière linéaire avec des hauts et des bas d'organisation et de désorganisation, mais l'histoire du monde en général indépendamment de la destinée des personnes. Cette histoire se trouve d'autre part être traversée par la naissance et la disparition des personnes. Et l'image que vous donnerez, c'est peut-être une image que nous avons inversée tout à l'heure d'ailleurs, c'est peut-être l'histoire d'un aller, d'un flux linéaire, l'histoire du monde jusqu'à sa restauration, et puis d'une spirale qui figurerait l'entrée et la sortie des personnes individuelles, des méchants, des âmes dans l'histoire du monde. Une spirale qui traverse indéfiniment cette ligne de l'histoire du monde en général. Est-ce que l'image est suffisamment claire? Avant de aborder l'analyse parallèle de ces deux espérances et de ces deux certitudes fondées en connaissance de la révélation prophétique, la restauration des mondes et la restauration, la plénitude de la destinée de chaque individu, je voudrais dans une très courte parenthèse, mais qui me semble nécessaire, souhaiter en votre nom et en mien la bienvenue ce soir à une délégation de la Catalogne, plus exactement de Gérone, qui, comme vous savez peut-être, a été le haut lieu de l'enseignement de la Kabbalah en Espagne, qui est venu visiter Israël, et qui a déjà eu le privilège de rencontrer dimanche soir ici même, ils nous ont exposé et expliqué leur projet de restauration du quartier juif de Gérone, qui est déjà très avancé, et plus centralement, de ce qu'ils ont appelé le centre dédié à la mémoire de Rabbi Yitzhak Chagénaro, Isaac Labeur en français, Chagénaro en hébreu, qui était un des grands maîtres à cette époque et précurseur du centre des catholiques de Géorgie. Je voudrais leur dire que cette rencontre n'avait pas été prévue lorsque nous avions décidé de ce moment sur la Kabbalah, mais il est possible que ces rencontres ont une signification pour elles-mêmes à travers l'histoire. Et ce moment de rencontre, c'est vraiment le cas et je suppose que vous aussi, restera dans le monde de moi. Selon ce nous qui aurons, vers le mois de juin, le privilège de pouvoir participer dans nous, à un grand voyage qui sera organisé à l'occasion cette fois de l'anniversaire de Jérôme, c'est Rambam Marmon, essentiellement. Cordoue, c'est Maïmoni, le Rambam. Et le centre d'Aïe organise, pas tout seul, mais organise un voyage de commémoration dans l'Espagne juive de ce temps-là. Et nous aurons l'occasion d'avoir une halte étape à Gérone même avant d'arriver à Cordoue. Et là, je pense que nous devrons reprendre la signification de cette rencontre de cette année après des siècles, mais disons 2000 ans, où nous n'étions pas parlé. J'arrive donc à notre. Donc, au-delà de cette première image de la vision du monde comme simultanément et donnant à être expliqué simultanément de l'histoire du monde en général et du développement de cette histoire à partir du chaos originel à travers l'organisation des figures du commencement dont le sujet est Dieu lui-même et à partir de l'histoire de l'homme au soir du sixième jour, dans le septième grand jour de l'histoire de l'humanité selon les termes bibliques et d'autre part, cette histoire globale traversée par la destinée de l'individu, ce qui nous ramène au deuxième point du bouling. Au-delà de cette image, je voudrais tout de suite, en introduction par approximation, en inglese. L'ottimo corpo sono i nuovi monetari della moneta tagliamento, la mia moneta del piccolo, moneta di degradazione. Allora, on peut se poser la question, l'expérience de notre présence dans le monde, à l'état de chaos en organisation, de savoir, et là je vous récapitule les analyses de différents auteurs, de savoir s'il faut considérer le monde comme le bagne de tous les univers, puisque dès que vous rappelez la situation de Marmont de Bratislava de la semaine dernière, il se demande, est-ce que ce que nous avons semé ici, en Olamazé, existe quelque part? Parce que l'idée de Olamaza, le monde de Avenir, le monde de marché est à venir à réaliser, ça c'est clair. Alors que ce monde-ci, le monde où on est en train d'acquérir les mérites de cette exploration, c'est une notion dont nous n'avons peut-être pas vraiment l'expérience dans sa cohérence, et que peut-être nous sommes dans le pays. Je vous rappelle cette question posée par la maison de la France. Je la posais en notre terre. Est-ce que il n'y a pas place pour considérer notre relation au monde comme une relation, pour pas de tout le monde santé, des bannes, qu'on aurait délégué de tous les univers les êtres qu'il y avait à restaurer. Et là, ça nous renvoie à l'échelle individuelle au problème de l'économie. Ou au contraire, comme un berceau, à travers la difficulté de l'engendrement, en filigrane la notion très connue de l'engendrement à la douleur. Ce sont deux visions différentes possibles, et nous essaierons de voir que les deux sont légitimes, à condition que les deux sont légitimes, à condition qu'on les pense tous les deux ensemble. Parce que ne pas le monde se présente un berceau, c'est un optimisme que comme un berceau qui aime à une naissance, c'est un optimisme légitime d'après notre expérience du monde, mais qui pourrait être défini comme naïf, sinon fait de fermer les yeux sur l'autre côté du monde, le banni. Et inversement, de ne voir que la vision pessimiste serait aussi tronquée. Une vision beaucoup plus réelle, beaucoup plus conforme à la réalité, serait de penser simultanément ces deux notions à la fois. Le monde comme berceau d'une naissance en train de se faire, c'est le tikkun, la restauration du monde. Le monde comme bagne des univers serait peut-être à veiller à la notion de l'économie. Nous allons reprendre cela de façon beaucoup plus détaillée. Une des raisons pour lesquelles j'ai commencé par dire que le sujet de ce soir est quand même beaucoup plus facile que les sujets précédents, c'est parce que tous les grands maîtres qui en ont traité ont mis en évidence à son propos la dignité exceptionnelle de l'homme à travers parmi toutes les terres. Ce tikkun, cette restauration de l'ordre du monde, de telle sorte que le monde soit vivable vraiment. En cours même de son histoire, pour répondre à la perplexité de la Rachman de Raka, que ce soit vraiment Olamazé, ce monde-ci, en attendant Olamazé, mais en ce monde-ci cohérent. Et que ce soit d'autre part, dans la lignée des Tikkunim, c'est finalement l'homme qui est le sujet et l'objet de cette restauration. Cela dépend de lui. Je dirais à ce propos, je vous donne à ce propos deux références en particulier. Et avant ça, je voudrais indiquer que cette notion de la dignité particulière de l'homme parmi toutes les créatures comme fondement et pilier de la possibilité de réussite du projet du créateur, comme je vous l'ai signalé, nous la trouvons comme thème principal dans tous les enseignements qui concernent notre sujet, mais je pense en tout cas du point de vue de ma propre expérience personnelle que le livre où cela est mis le mieux en évidence est un livre assez récent dans l'histoire de la Kabbalah, qui est le Nefesh Chaim, de la Chaimologie, qui, comme vous savez, a été le Talmud Chaver du Lord de Vilna. Et d'ailleurs, les Chassidim du Lord de Vilna, et j'entends bien que ça paraît parler de cette expression, les Chassidim du Lord de Vilna, mais je la répète, les Chassidim du Lord de Vilna ont l'habitude, pendant tout le mois de l'année, avant la préparation de la Nîmes Noraïm, au fait de Tichri, d'étudier ce livre du Nefesh Chaim. Et donc, le thème principal est de dévoiler de plus en plus cela, et la dignité de l'homme comme pilier de la possibilité de restauration des mondes et de réussite de l'individualité de chacun, degli storie danti che non spira al calotto degli storie della restauration chemica. La première référence que je vous donne à ce sujet, et nous sommes toujours dans les introductions d'approche, c'est le principe que l'homme récapitule tous les niveaux de l'être. Chacun des mondes représente chacune des phases du monde dans leur structure que nous avons vu un petit peu en détail, d'une part des spirales et de l'autre part des colonnes, représente un niveau de l'être dans cette infinie échelle de descente et de remontée que nous avons décrite. Et ce soir, nous occupons surtout de la remontée. Il faut rappeler que c'est le deuxième moment d'un premier qui est la descente de dégradation jusqu'à notre être de ce monde-ci, et que l'homme récapitule toutes les manières d'être. Et je vous donnerai à ce sujet une première citation dans Rachid. Lorsque j'ai préparé cette citation, que je vais vous donner immédiatement, je vais donner à moi une formule qui a été, c'est une anecdote historique, mais je la rappelle, qui a été, je crois, l'intitulé de la première dissertation philosophique que j'ai eu à faire à l'université. C'était une formule de Bergson qui avait été proposée comme sujet d'examen par Jan Kelevich. La formule était « La demeure de l'homme, c'est l'horizon ». Dans cette formule, « La demeure de l'homme, c'est l'horizon ». C'était « Prophète ». Et je crois que cette formule récapitule très bien l'approche, le point de départ de notre sujet. L'homme comme lieu de rencontre de tous les contraires, le haut, le bas, le côté droit du monde, le côté gauche, le bien, le mal, l'un et l'autre, et une espèce de centre indifférencié parce qu'il récapitule tous les niveaux d'être, et où se cherche un certain aboutissement, un certain accomplissement de l'outil de l'unité à chaque étape, l'unité des valeurs reconquises, des valeurs éparpillées reconquises. Vous vous souvenez de l'analyse du l'œuf et le liquide concernant les sources du mal, cet effort de faire émerger la personne humaine qui a été l'essentiel du projet du faire. Eh bien, cette idée que l'homme récapitule tous les niveaux d'être nous est donnée sous une forme extrêmement concise par un ouvrage de Sitrachi à propos du verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, et que je vais vous lire en première référence, à relier à ce principe de ce thème d'introduction, la dignité de l'homme dans l'histoire du vivant. Le verset 7 du chapitre 2 nous décrit la formation de l'homme, la yetzira de l'homme, et comporte l'expression suivante, Vaipar Beapar Mishma Khaï, que je vais analyser derrière. On nous apprend dans ce verset que Dieu a d'abord formé le corps de l'homme. Je ne traduis pas littéralement chacun de ces mots parce que ce serait une tentation de prendre un quart d'heure chaque fois pour les élucider en français. Donc je vous dis le sens global. Et Vaipar Beapar Mishma Khaï. Je vous cite d'abord la traduction classique habituelle, et il y insuffla dans ses narines un souffle de vie. C'est à peu près comme ça que vous le trouvez dans les traductions littérales. Dans les traductions littéraires, pardon, non pas littérales. Un peu plus littéralement, Vaipar Beapar Mishma Khaï, il anima son visage à Païm de l'âme vivante, de l'âme de vie. À ce propos, Rashi cite le Midrash suivant. Asao Minatartonim, il l'a fait de l'être d'en bas. Umina Elonim est de l'être d'en haut. C'est un pluriel, il a fait des êtres d'en bas, de la nature des êtres d'en bas. Les êtres d'en bas, d'après nos analyses précédentes, c'est le niveau d'être où l'être est encore au premier moment de sa destinée, où il se définit comme créature, dont toute la définition consiste à être. Un être dont tout être consiste à recevoir l'être. C'est ce qu'on appelle, dans le langage du Midrash, les êtres d'en bas. Recevoir l'être est en premier moment, avant que l'on ait mérité ce don de l'être, que l'on ait mérité d'acquérir ce don de l'être par son propre mérite en quoi que ce soit, c'est le niveau le plus naturel. On appellera ça le niveau des corps, comme le dit le Midrash, gouffre minatartonique, son corps des êtres d'en bas. Unoszono na jego nim, zasądzał dezert wody. Myśli, że wyjątki szły, nie był szamanem rady. Pastor, który mi, mu do tej chwili wyjściuje latę. Wyjściu, et wodu, latę, et wodu. Wydyzem dół, wasze mu dawa rakia rajdowi. Wydyzem dół, a jednej chwili, to się, to się mamą. Łapie z nami, co mu do rakia. Tak na ten dezert wodu. Wasz liści, wybrała na wasza lata w tobie, la condition de la terre ferme, ça concerne le désert en bas et la végétation, va réunir dans la nouvelle voie de la Pédaline, le quatrième jour de la crise éliminaire, ça concerne le désert en haut, Bahamishi, Shetsuamaï, la Katomine, le cinquième jour des animaux de la mer, et ça concerne le désert en bas, Mouskat, Bachichi, jusque-là nous avons trois niveaux pour les êtres en haut, trois niveaux pour les êtres en bas, jusqu'à Bachichi, niveau en haut, bas et dormi, nous battons. Par conséquent, il était nécessaire pour le sixième jour de créer une créature qui participait des êtres en haut et des êtres en bas, Vena, sinon, n'excluant pas assez de Bachichi, c'est installer une jalousie à l'intérieur de l'œuvre du commencement, à l'intérieur de la création, Chinim et Mouravim Aleni, de Minat Yomecha. Parce qu'il y aurait un privilège des uns sur les autres d'un jour dans l'ensemble de la création. Au-delà de la tradition littérale de ce ouvrage, nous avons une première référence qui fait allusion à cela, c'est que l'homme récapitule l'ensemble des niveaux d'être. Il y a des êtres d'en haut, il y a des êtres d'en bas, il y a des êtres qui sont de l'ordre de l'être qui donne l'être, il y a des êtres qui sont de l'ordre de l'être qui reçoit l'être. Voilà que le lien, l'unité, et la dialectique et la tension entre ces deux manières de l'être se récapitule dans l'homme. C'est une des analyses possibles, parmi d'autres, de cette idée importante que l'homme est le lieu d'unité de toutes les, de tous les niveaux. À ce sujet, deuxième référence, Rabbi Akiva enseigne dans les Pirkei Avot, et cette citation se trouve au chapitre 3, Mishnah 14, Rabbi Akiva va nous enseigner la préexcellence de l'être comme créature parmi l'ensemble des créatures. Si je choisis cette Mishnah qui est bien connue d'autre part au niveau des Pirkei Avot lui-même, c'est parce que vous le savez, Rabbi Akiva est un des grands maîtres de la Kabbalah autant des Tanakh. Il est le maître du Tzadikon, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir et tous les autres. Il nous dit ceci. Habib Adam Shimudra Beter. L'homme est une créature de prix, pas comme on traduit ça littéralement, Habib, aimé, aimable, préféré, chéri, c'est ça? Je ne comprends pas le terme en hébreu, Habib, ça dit voilà. Donc, l'homme est une créature de prix, disons, Shimudra Beter, puisqu'il a été créé selon le projet du créateur. Habituellement, ces termes sont traduits par la notion de à l'image du créateur, c'est une notion trop sujette à contestation pour que je la retienne. Retenons provisoirement que le terme de Tselem va être traduit par selon le projet du créateur. Faire une analyse très brève dans la linguistique française, à l'image du créateur, ça voudrait dire le dessin D-E-2-S-I-N, selon le projet du créateur, ce serait le dessin D-E-2-S-E-N. On préfère à la notion de destin humain, à la notion de destin humain. Et puis, là, Shiva et Tera Modarachio, un amour supplémentaire lui a été dévoilé, lui a été fait connaître, chez nous avec elle, de ce fait qu'il a été créé selon le projet du créateur, chez Néma, ainsi qu'il est dit dans le verset qui se trouve au chapitre 9, verset 6 de la Genèse. Betzelem Elohim Asa et Adam. Traduction directe, Betzelem Elohim, selon le projet du Créateur, à l'image du projet du Créateur, il a créé l'homme. Betzelem Elohim Asa et Adam. Ça c'est le chat. Alors nous pouvons lire avec Rabbi Akiva, Betzelem Elohim Asa et Adam. Betzelem Elohim Asa et Adam. C'est selon son projet que Dieu a créé l'homme. La Mishnah met en évidence une affirmation supplémentaire. Les commentateurs de cette Mishnah se sont posé la question de savoir pourquoi Rabbi Akiva a choisi un verset si tardif dans le 9e chapitre de la Genèse à propos de la révélation à Noah après le déluge, à Noé après le déluge, pourquoi il n'a pas choisi les premiers versets, les premiers chapitres, donnant la même notion que l'homme a été créé très sur les mélodies, à l'échelle du premier homme, et comment ça peut mettre en évidence une différence. C'est que, au sujet du premier homme, la Torah nous raconte que l'homme a été créé selon le projet du Créateur. Alors que dans ce verset, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à l'homme pour lui dire, à propos de l'interdiction du sang, c'est le verset 6 du chapitre 9 de la Genèse, chauffeur d'âme à d'âme, pas à d'âme d'âme du chauffeur, qui décède une opine à sa état. Donc la dignité de l'homme est définie dans un dialogue entre Dieu et Noé, et c'est dans la prise de conscience de son importance que se dévoile que cette importance va beaucoup plus loin que simplement ce que nous pourrions retenir d'un dynamisme immédiat, et qu'il est le projet même de la création. Deuxième remarque sur cette Mishnah, que le commentateur nous choisit évidemment tant, c'est que ce verset concerne tous les Ménoirs, c'est à l'échelle universelle, que l'homme acquiert son mérite d'être à travers l'existence. Il y a un cas particulier d'Israël dans l'histoire de l'homme, mais c'est déjà au niveau universel, après le déluge et pour les Ménoirs, que cette indication nous est donnée. Une troisième référence, toujours dans cette approche d'introduction de notre sujet, je vais la trouver dans l'expression très connue, qui se trouve à la fin du verset 3 du chapitre 2. Asher Barak Elohim Larasto. Le monde que Dieu a créé en vue de le faire. Je reprends l'expression et sa traduction, c'est dans les trois versets qui concernent le Shabbat, l'interruption de l'activité de Dieu en tant que créateur pour que l'histoire du monde commence. L'expression est « Asher bara Elohim Barak ». Le monde que Dieu a créé, la race en vue de le faire. J'ai ajouté l'article « en vue de le faire ». Là, nous avons deux lectures possibles. Et pour bien comprendre, je voudrais introduire très brièvement la différence de notion entre le verbe « baro » et le verbe « asso ».« Baro », c'est faire apparaître le projet de la création au niveau de son être de vérité. Rappelez-vous la notion de tout à l'heure, marcher vers la bria. La création de Dieu l'a vue est déjà parfaite. Elle est diminuée de ce niveau de perfection dans le niveau de réalité où se joue le problème de la destinée de la créature à voir, à mériter l'être qui a été, dont il a été gratifié, l'être qui lui a été donné en don. De telle sorte que le projet du créateur se réalise vraiment. Je reviens très brièvement à cette analyse de la dernière fois. Tant que je reste au stade de vivre un être qui m'a été donné gratuitement, il ne m'appartient pas encore, et le projet du Créateur que je m'appartienne vraiment n'est pas encore réalisé. Pour que le projet du Créateur, qui consiste à donner, soit vraiment réalisé, il faut que celui qui reçoit ait acquis ce qu'il a reçu. Alors, le don de l'être, dans la perfection du projet, c'est au niveau de Bara, Bria, et marcher avec la Bria. Et le niveau de Asso, Asia, c'est le niveau de l'existence à travers laquelle on mérite l'être. Je reprends donc l'expression du verset. Le monde que Dieu a créé, l'Asso a fait de le faire. Asso, ça veut dire finalement, c'est le sens de notre sujet, je vous donnerai une référence immédiate à ce sujet aussi. Asso, ça veut dire restaurer, mise, mettre au point. Il y a une correspondance entre eux. La race et les taquets. Vous l'avez dans l'explication de Rachid Ben, sur le verset 7 du chapitre 1, Balaas et Elohim et Taratia. Et Dieu fit le firmament. Il n'est pas dit, et Dieu créa le firmament, mais fit le firmament. S'il y avait, et Dieu créa, il y aurait encore à attendre la restauration de Tikkun, la mise au point définitive qui s'appelle Atia. Ici, à propos du firmament, et le verset d'André Bayaras. Il le fit de telle sorte que cela soit au point de façon infinie. Parce que l'idée est claire. Pas seulement qu'il a créé comme projet, il faut encore le faire, mais les deux niveaux, mais il le fit. Non seulement Baba, mais Bayaras. Nous avons énormément d'autres exemples, mais disons celui-là parce que, en particulier, là, Rachid va nous nous établir cette équation, la raison, c'est l'état qu'elle. Faire, ça veut dire mettre au point, jusqu'au niveau de la réalisation de la restauration, qui est notre sujet. Tikkun al Ando, veillir à s'y attendre. Lorsque le verset dit, et Dieu fit l'œuvre, pour l'appliquer à notre sujet. Venons prendre l'étymologie même du terme. Le terme dont se sert l'hébreu pour dire le vide, et c'est dans un vide d'être que notre monde est émané, que notre monde est situé, et donc l'état de notre monde va être accompagné par cette trace de vide dont nous avions parlé, et c'est ça qu'il faut explorer. Et bien, le vide d'être lui-même est indiqué en hébreu par un mot qui signifie en même temps la profanation. Le même mot que halal, le vide, signifie hidou, profane. Et avec tous les degrés que je vais essayer de vous énumérer rapidement les significations de cette racine. Le premier sens, c'est la vacuité, le vide, l'être se retiré. Mais le deuxième sens de la racine, nous l'avons dans le mot de chol, qui signifie un trou, quelque chose de trouvé, c'est encore l'idée du vide, mais qui signifie aussi déjà le profane, ce qui est profané. Et le niveau supplémentaire, c'est la maladie, chole, machala. Je reviens un peu en arrière dans la notion de chol, le trou, ce qui est vidé, l'évidement. Vous avez par exemple le terme de hali, la pute, c'est-à-dire le son qui vient du trou. C'est le même terme. Et quand on arrive au terme de halal, qui signifie vide, c'est un terme dont le mot mondial se sert pour désigner l'espace sidéral, halal, halal, l'atmosphère, plus l'atmosphère, la stratosphère, je ne sais pas comment dire. Hein. Le cosmos. Et puis, dans le mot unique, et aussi dans les mots traditionnels, le mot de halal signifie le cadavre. Ça veut dire que l'idée de profanation et l'idée de vide d'être sont reliées dans la même racine. Qu'est-ce que c'est que le cadavre? C'est, à la limite, au paroxysme, la profanation suprême. La vie était là et a été reprise. Et par conséquent, la notion de vie qui est l'ombre du monde, que les kabbalistes appellent aussi du mode de détermination, blima, très difficile à traduire, c'est-à-dire sans blima, sans rien à quoi s'accrocher. Cela désigne que la notion de vide, pour l'hébreu, n'est pas une notion première. Il n'y a pas d'abord le vide et le monde est apparu. Il y a d'abord l'être. La notion de vide est une notion dérivée. C'est une notion seconde. Et vous trouvez la même signification dans la notion de profane. Le profane, c'est le profané. La sainteté était là et elle s'est retirée. Ce qui est resté est premièrement au niveau du vide d'être et deuxièmement au niveau de la profanation. La profanation suprême s'appelle halal. Et donc, en hébreu, c'est important d'entendre simultanément ces deux significations, le vide et le cadavre. Le vide étant le résultat d'un retrait de l'être. Par conséquent, dès cette racine-là, le monde est inévitablement perçu comme entaché de manque. Tout ce qui existe dans notre monde est perçu comme chaser, manquant de quelque chose. C'est ce quelque chose qui manque qu'il s'agit de restaurer. Voilà pourquoi la notion de tikkun doit se relier d'autre part directement à la notion de halal. C'est une certaine manière de percevoir le monde comme manquant de l'essentiel qui fonde le projet de la restauration. Dans tous les grands textes, et en particulier dans énormément de très belles pages du Zohar, la description de cet état d'origine du monde qu'il y a à restaurer, qu'il est question de restaurer, nous est toujours donné dans une atmosphère de deuil, dans une atmosphère de d'exil de l'essentiel, et donc de nostalgie de restauration de cet essentiel qui est exilé. Et en particulier, une des expressions les plus souvent employées par le Zohar, c'est que le monde serait comme une royauté sans couronne, une royauté dans la couronne. Serait absente. C'est la nostalgie de cette restauration selon la nostalgie de l'essence qui manque. Et l'effort de la vertu spirituelle consiste précisément à retrouver cette proximité de la couronne. Plus cette proximité est obtenue, et plus se dévoilent les signes de la réussite du projet de restauration, la présence, cette présence s'appelle la Shekhina. Je reprends cette analyse pour la résumer, par le fait que le lieu du monde est d'abord un halal, le monde est perçu comme hasser, manquant, mais manquant de l'essentiel. Ce qu'on appelle la couronne de Kéber dans le vocabulaire kabbaliste, c'est ce qui définit un niveau d'être du monde à chaque niveau des sphérotes, chaque sphère a son Kéber, chaque olam a son Kéber, qu'on appelle olam de Ar, je ne reviens pas sur les détails de ces vocabulaires, mais la couronne d'un monde, la couronne de toute présence, c'est ce qui définit sa manière d'être, qu'elle est seule à posséder en dignité propre, mais dont elle est privée pour le public existe. Nous retrouvons donc dans la liste précédente. Pour que ce monde-ci puisse exister comme autre que Dieu, il faut donc qu'il y ait un décalage, qu'il y ait une différence, qu'il y ait une diminution d'être dont il sera privé pour exister. Et retenez bien la différence d'emploi du mot être et exister. Sinon, il serait confondu en Dieu, il n'existe pas par lui-même. Donc la condition de notre existence, c'est que nous sommes comme une royauté sans couronne. Et la couronne, c'est précisément ce qui est vraiment chaque monde, mais dont il est privé vraiment pour pouvoir exister. On appelle donc dans ce vocabulaire, qui est surtout le vocabulaire du Zohar, la nostalgie de la restauration comme l'exigence de restauration de la couronne. J'en arrive à une dernière notion d'introduction. Et celle-là va nous ramener un peu en arrière, au même niveau, au résultat de Shmirat HaGuf. Alors, vous marquez ce qui se passe. Le monde est d'abord un lieu vide, privé d'être, de telle sorte qu'il puisse être situé quelque part. Pour que le monde soit situé quelque part, il faut d'abord le ramener. Ensuite, la lumière qui avait été retirée reviendra dans ce halal pour structurer les différentes hiérarchies des mondes. Et c'est dans cette descente, depuis la périphérie jusqu'au centre de cette sphère du halal, que apparaît finalement l'être qui reçoit l'être, c'est-à-dire le niveau où nous sommes situés comme créatures, le monde d'en bas, comme on dit dans un certain vocabulaire, l'Aram Asiya en hébreu. Vous devinez qu'à chacune des phrases, il y a là, pour nous, une introduction à des années d'études dans les livres spécialisés. Et lorsque la lumière revient, elle rencontre les niveaux d'être, qui sont les niveaux de proximité ou d'éloignement de la présence du Créateur restée au-delà de ce vide. Et à chacun de ces niveaux d'éloignement ou de proximité... À propos de chaque... niveau d'éloignement et de proximité, apparaît un niveau d'être des mondes. J'emploie intentionnellement un vocabulaire très synthétique et très récapitulé. Lorsque cette lumière revient pour donner être aux existants obscurs, qui sont les kélims, les véhicules de présence et non pas les présences elles-mêmes, alors suivant leur degré de mérite, leur degré de transparence, ces véhicules peuvent supporter la lumière qui leur est proposée ou ne la supportent pas. Les niveaux où ils ne la supportent pas apparaît ce que le langage de la Kabbalah appelle, je suis avec une, l'éclatement des véhicules. Les débris de ces véhicules brisés, de ces vases brisés, si l'on peut dire, sont tombés au centre, là où est située la terre, les cieux de la terre, et c'est pourquoi la Torah y fait allusion déjà en disant, et la terre était devenue chaos. Ce chaos, c'est l'accumulation du pêle-mêle chaotique de ces débris de valeurs éclatées qui sont tombés sur terre parce que les cieux ne les supportaient pas. C'est le cas de Shmirat HaGuf. Si c'est bien clair jusque-là, je me suis borné à rappeler en quelques phrases les analyses précédentes, alors nous pouvons maintenant apprendre un vocabulaire nouveau qui va nous faire pénétrer plus directement dans notre sujet de ce soir. Je vous ai d'abord été en hébreu et j'explique les mots. La lumière qui est donnée, proposée à la créature, et l'instant originel de la créature, c'est opacité, chaos, obscurité, cette lumière qui la après être dans son existence, l'âme dans le corps, vous voyez dans cette image, eh bien, elle peut se présenter de deux manières. Soit le kéli, le véhicule de la présence, est suffisamment rare, transparent, a suffisamment de scrout, de mérite, sans revenir sur ses, les analyses précédentes, alors il reçoit sa lumière, et la rencontre entre le haut et le kéli, entre la lumière revenue de là où elle était partie, et la présence des créatures qui étaient apparues de son retrait, cette rencontre construit la restauration, l'instauration peut-être, peut-être dire, du monde considéré, du niveau d'être considéré. Si le kéli, le véhicule de présence, de l'âme, d'être, a éclaté, alors la lumière n'a pas de point d'appui dans notre monde, elle remonte. Elle nous quitte. Elle nous quitte en laissant des traces. Elle nous quitte en causant dans son retrait corollaire à l'éclatement des vases en éclats, le fait que chaque éclat a dérobé, emporté avec lui une étincelle très en trace de cette lumière qui est prisonnière du cœur, ce qu'on a appelé le people dans l'analyse précédente. Mais je reviens au principe essentiel, les écorces. Et je reviens au principe essentiel, c'est que si un vase a été brisé, si un kéli a été brisé, alors, la lumière est repartie. Elle ne peut revenir que si le kéli est reconstitué. Et c'est de l'ordre du mérite, c'est à l'ordre du mérite en annexe, hein. La reconstitution du kéli qui fait que le kéli étant de nouveau reconstitué, d'une manière différente de la manière dont il avait été brisé à cause de la multiplicité de valeurs, chaque kéli ne retenant que la lumière de telle ou telle valeur. Et comme toutes les valeurs sont proposées en même temps, l'unité des valeurs, les kélis qui n'étaient pas assez transparents pour laisser traverser par l'unité des valeurs de monde en monde, de degré en degré, donc il faut reconstituer un kéli plus transparent, pendant de l'unité des valeurs, et nous verrons comment la Kabbalah va nous expliquer. Là, nous avons donc ce deux manières d'être de la lumière. Lorsque la lumière est proposée, apparaît l'expression du face à face. La créature et le créateur sont face à face. La lumière est proposée par le créateur face à la créature qui la reçoit. Si la créature dispose d'un kéli suffisant, elle reçoit la lumière face à face, et ça s'appelle dans le langage du Midrash, Midat Hesed. C'est la gratification de la grâce, c'est donner en grâce. Si le kéli ne peut pas recevoir cette lumière parce qu'il ne la supporte pas et qu'il éclate, la lumière se retire, et elle éclaire en se retirant. Est-ce que j'ai bien clair? Ça s'appelle en langage de la minade à vie, la mesure de la lumière. Et donc, ça, lumière proposée, peut rencontrer deux significations, deux positions, deux situations différentes. Ou bien le kéli est déjà préparé, alors la lumière est reçue face à face, ou bien le kéli n'est pas encore préparé, la lumière est reçue, mais par la face arrière, de la horaïm, par la lumière qui se retire. La lumière qui se retire éclaire, mais elle éclaire en se retirant. Et il y a deux expériences de l'existence radicalement différentes. Si la lumière est reçue face à face, il a tarifé, ou si la lumière est reçue en fait sur le pied, la mine a tarifé. En termes très très proches de nous, de notre expérience quotidienne, c'est le bonheur et le mal. C'est-à-dire, dans tous les cas, ce sont les deux faces de ce qui nous est proposé, l'être. Si nous sommes capables de recevoir l'être face à face, l'être est reçu avec bonheur. Et s'ils ne sont pas capables de recevoir l'être face à face, alors ils se retirent cet être qui nous est proposé, mais ils nous éclairent quand même dans la fin du mal. Je pense que c'est du même. C'est Or Yachar et Or Cholit. Mais, l'analyse va plus loin. C'est que, à quelque niveau que ce soit, le véhicule de réceptacle, de réception de l'être, retient quoi que ce soit de l'être qui lui a été proposé. Et à la longue, si j'ose dire, chacun avec le temps de sa destinée, chacun avec le temps de sa destinée, le kéli se constitue par un geste que je vais essayer de vous décrire, c'est-à-dire que tout le monde verra le geste, que le langage de la Kabbalah appelle « maté de l'homme maté ».